Ce matin, on va continuer dans Exode. On va passer à Exode 24. En voyant le message de dimanche dernier et le message de dimanche prochain, je vois que Dieu m'a fait la grâce de ne prêcher que sur un chapitre. Donc, bon courage à Dan pour la semaine prochaine, qui a beaucoup de chapitres. Et on va continuer, oui, notre voyage, notre pèlerinage historique à travers l'Exode. On a vu la semaine dernière que Dieu a donné les 10 commandements pour son peuple et toutes sortes d'instructions à son peuple. Et pourquoi ? Exode 19, 5 à 7 nous dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc c'est Dieu qui veut se créer une nation sainte, un peuple qui lui est réservé. Et il a donné des instructions, les 10 commandements, les 10 paroles, à Moïse pour qu'il puisse rapporter ça au peuple, pour que le peuple sache comment se comporter. Et voilà où on est ce matin, on se trouve en plein dans cette alliance. Et avant de vous lire le texte, j'aimerais vous demander comment est-ce que de nos jours, on acte une alliance ou un contrat. Une signature sur un papier, ouais, merci. Et ben vous allez voir, dans l'Ancien Testament, c'était quand même un petit peu mieux. Et on va lire le texte ensemble. Donc, Exode 24. Vous l'avez dans les petits feuillets, sinon il est affiché. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. » Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines, et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que dit l'Éternel. » Nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuit. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. On retrouve ici le feu dévorant de la semaine dernière, les pierres précieuses de ce matin durant la présidence, on est dans le thème. Et j'aimerais relever une première chose avec vous, c'est sur la structure du texte. Des versets 1 à 8, on retrouve Moïse qui rejoint tout le peuple et qui parle au peuple de la part de Dieu. On a un grand groupe qui se trouve au pied de la montagne. Des versets 9 à 11, Moïse, Aaron, ses deux fils et 70 anciens montent sur la montagne. Et cette fois, ils aperçoivent Dieu. Un groupe plus restreint qui se déplace, qui monte sur la montagne de Dieu. Et des versets 12 à 18, il ne reste plus que Moïse, Josué et Dieu. Ils vont au sommet de la montagne, en tout cas ils vont plus haut qu'avant. Et la montagne fut recouverte de la gloire de l'Éternel qui reposa sur le mont Sinaï. La nuit le recouvrit pendant 6 jours. Et je pense qu'il est intéressant de retenir un peu cette progression des différents endroits où se trouvent les personnes durant le texte. Et on va suivre cette progression aussi dans le plan. On va tout de suite attaquer les 8 premiers versets. Les 8 premiers versets. Dieu se révèle au peuple. Dieu se révèle au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Donc on se trouve après la sortie d'Égypte. La délivrance a déjà eu lieu. Et Moïse, qui est le messager de Dieu, l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, va apporter les 10 commandements, les instructions de Dieu. Et quelle est la réponse du peuple? La première réponse: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Quelle discipline, quelle obéissance de la part du peuple. Je dis cela avec un tout petit peu de dérision, car si on connaît la suite, même pas peut-être 2 mois après, on va voir ce qui va se passer avec le veau d'or, et je ne vais pas empiéter sur le message de Samuel. Mais à ce moment-là, au moment où ils ont reçu les commandements, les instructions, le peuple a répondu: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrit ensuite toutes ces paroles dans un livre. Puis, on arrive aux versets 5 à 8. On a là une cérémonie. On pourrait dire une cérémonie d'alliance entre Dieu et son peuple. Des taureaux sont offerts en sacrifice de communion. Et on va s'arrêter ici quelques instants sur la symbolique du sang dans l'Alliance. On est dans l'Ancien Testament, je le rappelle. Moïse lit une deuxième fois ce qu'il a dit précédemment. Et le peuple répond à nouveau: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. En ajoutant: et nous y obéirons. Il y a cette fois cette notion d'obéissance. Oui, on va respecter ce que Dieu nous demande. Oui, on va respecter les 10 commandements. Le peuple s'engage à obéir à ce que Dieu lui demande par l'intermédiaire de Moïse. Dans une alliance, on a 2, voire plusieurs parties, minimum 2. Et le peuple, ici, fait sa part, entre guillemets, affirme que oui, nous allons faire notre part de l'alliance. Nous allons respecter, obéir aux commandements. Le peuple accepte la part de l'alliance qui est la sienne. Donc, obéir à ce que Dieu lui demande. Ensuite, Moïse scelle l'alliance en aspergeant le peuple avec le sang des sacrifices et en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. Et le sang a une symbolique de quelque chose qui est mort à la place de quelque chose qui aurait dû être. Les animaux symbolisent la mort à la place des hommes. Les hommes du peuple, les hommes remplis de péché, sont épargnés par le sacrifice des animaux. L'alliance ne peut être réellement conclue que s'il y a expiation des péchés. Et ici, les péchés sont reportés sur les animaux. Mais ce n'est que temporaire. Il va falloir réitérer ces sacrifices jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint. Un Dieu saint qui a horreur du péché. Et nous sommes tous des pécheurs. L'homme a ça en lui depuis la fondation du monde, depuis la chute d'Adam et Ève. Si on avait été à leur place, on aurait fait pareil. On nous interdit quelque chose, on a envie d'essayer. Et de ce fait, on pêche nous-mêmes, nous pêchons par nos actes, par nos pensées, par notre nature, et nous sommes séparés de Dieu, tout comme l'était le peuple à l'époque. J'aimerais vous poser une petite question, un terreau surprise. Savez-vous pourquoi Dieu a donné la loi? Les 10 commandements, les instructions? Non. Oh, c'est triste, j'ai prêché sur ça, je crois, il y a un an. La loi nous révèle ce que Dieu nous attend de nous. Ah, Rose, elle n'a pas l'air d'accord avec moi. La loi nous révèle ce que Dieu attend de nous. Dieu veut se faire une nation sainte, on a vu ça en Exode 19. Et Romains 5, 20 nous dit « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Ce n'est pas la loi qui fait pécher les gens, mais c'est la loi qui révèle le péché des gens. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de transgression. S'il n'y a pas de code de la route, on peut faire ce qu'on veut. Je peux rouler à 200, j'ai le droit. Sans loi, pas de cadre. Sans cadre, pas de bien et de mal, mais uniquement la justice de chacun. La loi permet simplement, même si ce n'est pas simple, aux hommes de voir combien il est impossible d'être saint aux yeux de Dieu et combien il est nécessaire d'être pardonné. Ici, dans l'Ancien Testament, cela se traduit par des sacrifices bien imparfaits d'animaux qu'il faut répéter encore et encore. Juste une fois, je fais une parenthèse, désolé, je ne l'ai pas marqué, je me suis imaginé le travail que c'était jour après jour. Quand vous lisez toutes les démarches, tout ce qu'il faut faire, il faut déjà élever les animaux, vous les achetez. Et après, tout ce qui est dit, le travail que ça devait être, la charge que ça devait être jour après jour, ça devait être quelque chose de faramineux. Je referme là la parenthèse. Donc dans l'Ancien Testament, des sacrifices bien imparfaits d'animaux. Mais Dieu a envoyé le sacrifice parfait sur terre, son fils Jésus. Et on va lire quelques versets, beaucoup de versets d'Hébreux 9. Je sais que le passage est long, mais je trouve qu'il résume bien le lien entre le texte que l'on lit et l'œuvre de Christ. Alors on va lire ça ensemble. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Une fois par an, il y avait un prêtre qui était choisi, qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint du tabernacle, qui était l'endroit le plus saint, le plus proche de Dieu, entre guillemets. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Je continue au verset 23. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que cela. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, donc plusieurs fois comme on faisait avec les sacrifices, qu'il y est entré comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. N'hésitez pas à reprendre ce texte chez vous, Hébreux 9. Je trouve ce texte magnifique et je ne vais pas commencer un deuxième message là-dessus, mais simplement Christ est le sacrifice parfait, sans défaut, qui aujourd'hui peut te permettre de retrouver une relation personnelle avec Dieu. Dieu nous a fait la grâce d'envoyer son fils unique, sur terre, d'envoyer le seul capable de nous rendre acceptables aux yeux de Dieu par sa mort et sa résurrection, si et seulement si nous faisons de lui le maître de notre vie. Et pour conclure sur ce premier point, retenons que Dieu fait alliance avec son peuple. Dieu se révèle à travers sa loi, à travers ses commandements. Il révèle quel Dieu saint il est. Il révèle ce qu'il attend du peuple. Il révèle comment il faudrait être pour pouvoir être en sa présence. Et on se rend compte que humainement, ce n'est juste pas possible. Est-ce que vous avez déjà fait alliance avec Dieu? Avez-vous fait votre part, comme l'a fait le peuple, au moment où nous nous trouvons dans le texte? Dieu a envoyé son Fils pour moi, pour toi. Quelle est ta réponse aujourd'hui? On va avancer dans le texte, on va aller au verset 9 à 11. Et ces versets m'ont au début un petit peu interloqué, même embêté. Je me suis dit, ah, là il y a un point compliqué, car peut-on voir Dieu et rester en vie? Vous diriez quoi? Est-ce qu'on peut voir Dieu et rester en vie? Si quelqu'un répond non, ça m'arrangerait. Merci. On va relire les versets 9 à 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent, puis ils mangèrent et burent. Donc, est-ce qu'on peut voir Dieu et vivre? Visiblement, oui, vu que les 70 et les 2-3 autres qui sont cités personnellement ne sont pas morts. On peut peut-être se poser la question autrement. Est-ce qu'ils ont vraiment vu Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont vu de Dieu? Qu'ont-ils vu de Dieu? On va voir ça dans le second point. Dieu se laisse voir. Et au final, on va voir que c'est assez simple à expliquer si on décortique un petit peu le texte et si on regarde 2-3 commentaires. Et déjà, on va juste noter que dans notre voyage, dans le mouvement, les hommes ont quitté le camp et ont commencé à monter sur la montagne, cette montagne sainte. Et la rencontre va se faire sur la montagne. On ne sait pas exactement où, pas au sommet, vu que Moïse et Josué iront ensuite plus haut. Et que virent-ils au verset 10? Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. On a déjà eu avant dans le texte d'Apocalypse la notion de pureté, de pierre précieuse. Et qu'est-ce qu'il voit? Que voit-il? Il ne voit que ce qu'il y a sous les pieds de Dieu. Pas de description du corps, pas de description de tête, de main, de choses qui, comme nous, on décrirait une personne. Il ne voit que ce qu'il y a sous ses pieds. C'est comme une œuvre en saphir transparent. Le saphir, mesdames, vous le savez, c'est bleu. Messieurs, ceux qui en ont déjà offert, vous le savez aussi. Et j'ai tapé saphir transparent sur Google. Bon, j'ai pas eu de résultat. Mais le texte nous laisse penser à quelque chose pardon, il est dit que c'est semblable au ciel dans sa pureté. Donc j'imagine quelque chose d'éclatant, quelque chose de profond, d'intense. Voilà la seule chose qu'il aurait permis de voir. Et en réalité, on est ici en présence d'une théophanie, comme on le dit. C'est un mot un peu barbare qui désigne tout simplement une apparition de Dieu, et plus précisément une démonstration de la présence et du caractère de Dieu, que les êtres humains peuvent observer. Un commentateur fait plutôt état d'une vision, de quelque chose de trouble, quelque chose de pas net, mais qui fait tout de même rejaillir toute la gloire de Dieu. Un autre dit que le verbe au verset 10, le fait de voir, c'est comme si on voyait avec un œil. On voit pas super bien. Tout cela pour dire que les hommes présents n'ont vu qu'une apparition de Dieu et toute la gloire qui va avec. Ils n'ont vu que ce que Dieu leur a permis de voir, c'est-à-dire assez pour savoir à qui ils avaient affaire. Et dans ma préparation, je me suis longtemps arrêté sur ce point, avant même de traiter les autres. Je me suis dit, il faut que j'arrive à répondre à cette question de peut-on voir Dieu et vivre? Mais il y a quelque chose, à mon sens, de plus important encore. Et comme pour d'autres apparitions de Dieu, les hommes n'ont pas vu Dieu personnellement. Ils ont vu une apparition, ils ont une vision comme d'autres. On a Ésaïe qui est dans ce cas-là, on a Isaac, on a Jacob, on a Jean. Trois petits points. On l'a vu ce matin d'ailleurs avec le texte de l'Apocalypse. Ce qui est important ici, entre autres, c'est le verset 11. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Si ces hommes sont encore en vie, s'ils ne sont pas morts parce qu'ils ont aperçu Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu leur a fait grâce. Et regardez la suite du verset, ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Alors, on est dans quelque chose de plus terre à terre, ça nous parle tout de suite. La nourriture et la boisson. Plus simple que de parler de théophanie. Et pourtant, ce repas a toute son importance. Je vous ai parlé avant de, voilà, comment est-ce que de nos jours on signe un contrat, bon, on le signe du coup. Parce que quand vous signez votre contrat, derrière, vous faites un repas avec la personne avec le futur patron ou la personne qui vous embauche. Moi, pour l'instant, non. Et ici, ça se termine par un repas. Et il faut savoir qu'à cette époque, on scellait des alliances et des accords lors de repas. On mangeait plus pour symboliser l'accord que pour se nourrir. On mangeait qu'avec ses alliés aussi, par exemple. Souvenez-vous de Jésus qui était montré du doigt parce qu'il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Dans le Nouveau Testament, ça se fait pas. Ce sont des mauvaises personnes. Il faut pas aller avec ces personnes-là. Par ce repas en présence de Dieu, l'alliance est en quelque sorte ratifiée. Le peuple, dans la plaine, dans le camp, a tout d'abord dit qu'il ferait tout ce que l'Éternel a dit. Ses représentants, par l'intermédiaire d'Aaron, Moïse et les fils d'Aaron et les anciens, actent cette alliance en présence de Dieu. Et il y a ce repas. Comment dire, l'alliance est scellée encore plus durement, plus sérieusement au cours de ce repas. Et ensuite, enfin, suite à ce repas, Moïse monte avec Josué pour recevoir les tables de pierre. On arrive donc au dernier point qui concerne l'ascension de Moïse et de Josué. Dernier point très court qui fera aussi guise de conclusion. Regardez le verset 12. À quoi doivent servir la loi et le commandement de Dieu? Vous l'avez dans les petits livrets. Verset 12. À quoi doivent servir la loi et le commandement de Dieu? Là aussi, vous pouvez répondre à voix haute. À enseigner, oui. À enseigner. L'importance de l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous voyez, dans le laps de temps de notre texte, Moïse leur dit une première fois, puis il écrit, puis il relit. Je ne sais pas dans la temporalité en combien de temps il leur a tout relu, mais on peut facilement penser que c'était, si ce n'était pas en un jour, c'était peut-être en 2 ou 3 jours, mais en tout cas, le temps qu'il écrive, mais en tout cas, en très peu de temps, il a relu 2 fois ce que Dieu lui avait laissé. L'importance d'enseigner les instructions, de les transmettre pour connaître toujours davantage Dieu, pour connaître ce qu'il attend de la nation sainte qu'il veut se constituer. Puis Moïse entame son ascension avec Josué. Au verset 15 et 16, la gloire de l'Éternel repose sur le mont Sinaï. Puis Dieu appelle Moïse. Et Moïse répond à cet appel et pénètre au milieu de la nuée pour y rester 40 jours et 40 nuits. Alors, on pourrait aussi se demander, tiens, au fur et à mesure de l'ascension, les personnes qui ont le droit de monter tout en haut se rapprochent de plus en plus de Dieu. Alors, est-ce que Moïse et Josué étaient plus spirituels que ceux qui sont simplement restés dans la plaine et ont juste eu les paroles rapportées par Moïse? Je ne vais pas du tout aller dans ce sens-là. Il faudrait faire attention de ne pas faire ce raccourci-là. Moïse et Josué montent vers Dieu car Dieu les appelle. Moïse répond, il obéit à Dieu. Après des débuts difficiles, on peut se souvenir que Moïse ne voulait pas aller voir Pharaon, il ne voulait pas aller parler à Pharaon de la part de Dieu. On retrouve un Moïse qui est tout entier dévoué à Dieu. Mais on pourrait aussi dire que tu n'es pas encore arrivé au bout de sa marche avec Dieu. Il commettra encore des erreurs, par exemple, quand il se mettra en colère, qu'il frappera le rocher, ce qui lui enlèvera même le droit d'entrer en terre promise. Mais une réponse possible avec nous aujourd'hui, c'est que, pardon, pour l'époque, Dieu était tellement saint que très peu de personnes pouvaient s'approcher de lui et avoir cette proximité qu'avait Moïse, qu'avaient d'autres personnes aussi très importantes dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, grâce à Christ, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, nous pourrons nous approcher de Dieu. Il n'y a plus de barrières, on peut lui parler librement, exprimer nos joies, nos peines, nos interrogations. Donc c'est pas parce que aujourd'hui je suis au début de ma vie chrétienne que j'ai pas le droit d'avoir une relation avec Dieu que par rapport à quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, qui pourrait, on va dire, être au sommet de la montagne et nous on est au pied de la montagne. Alors, que retenir de ce texte ce matin? On pourrait faire un point tout d'abord dans notre vie, où est-ce qu'on se trouve par rapport à la montagne? Au pied de la montagne, dans le camp, est-ce que vous avez déjà répondu à l'appel de Dieu, à cette main tendue? Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à ne pas tarder, à vous réconcilier avec le Créateur. Est-ce qu'on est en marche? Et est-ce qu'une fois en marche avec Dieu, est-ce que j'ai la volonté de le connaître davantage? Moïse a aussi cette relation parce qu'il désirait connaître Dieu. Il l'a vu faire toutes sortes de miracles et il en voulait toujours plus. Il demande même à un moment donné, montre-moi ta gloire. Il a envie de voir et de connaître davantage Dieu. Est-ce que sa parole est au centre de ma vie? On dit souvent que c'est en passant du temps avec quelqu'un qu'on apprend à le connaître. Est-ce que je passe du temps avec Christ? Est-ce que je passe du temps avec Dieu dans la parole qui nous apprend à savoir ce que Dieu attend de nous? Quel Père fidèle, aimant, juste, droit, jaloux, puissant, amour il est, et on pourrait en rajouter encore bien d'autres. Si on reprend l'image de l'ascension de la montagne, on pourrait dire que la vie chrétienne est aussi une longue marche. La conversion n'est que le point de départ. À nous d'être persévérants, volontaires, intentionnels. La vie chrétienne peut être semée d'embûches et on doit garder la tête et les yeux fixés vers le ciel. Ça a été aussi dit durant la présidence, les yeux rivés sur l'éternité qui nous attend. Une éternité en présence de Dieu. Et quelle glorieuse espérance, pardon. La foi, elle, n'est pas une question d'expérience surnaturelle. On pourrait presque dire que les 70 et les fils d'Aaron ont vécu une expérience vraiment hors du commun. Ils étaient face à Dieu, ils ont pu voir ce que Dieu leur a laissé voir. Et je répète, la foi n'est pas une question d'expérience surnaturelle. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, malheureusement pour eux, en Lévitique 10:2, ils ont mal fini. Ils ont pris chacun un brasier, ils mirent du feu, posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Pourtant, ils avaient vu Dieu. Ils ont fait une expérience, ils ont expérimenté quelque chose. Ça ne les a pas empêchés derrière de faire quelque chose qui était interdit, d'être jugés directement sur place. Faire une expérience avec Dieu ne veut pas dire être sauvé. La vie chrétienne est faite de persévérance, comme je l'ai dit avant. C'est sur la durée que la foi est mise à l'épreuve. C'est au fruit que l'on reconnaît un bon arbre d'un mauvais arbre. Et comme dernier point, rappelons-nous aussi sans cesse le prix payé à la croix par Christ. Lui, le seul sacrifice parfait qui offre à tous ceux qui le reconnaissent comme sauveur personnel un accès au Père. Lui qui était la seule victime parfaite aux yeux de Dieu. Grâce au sang de Christ, nous sommes purifiés une fois pour toutes, si et seulement si nous en avons fait le maître de notre vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je vous laisse avec ce dernier point. Je vais peut-être juste prier pour clôturer le message. Mon Dieu, au travers de ce texte qu'on a lu ce matin, tu as fait une alliance avec ton peuple. Tu as fait une alliance avec ton peuple et tu as expliqué au peuple ce que tu attendais d'eux. Et aujourd'hui, nous avons ta parole entre les mains. Nous avons l'entièreté de la parole, l'Ancien, le Nouveau Testament. Et ce que tu désires de nous, c'est de reconnaître cet état de pécheur, que nous puissions nous humilier devant toi, te demander pardon et reconnaître que tu es le seul maître de ce monde et que tu puisses devenir le maître de notre vie. Qu'on puisse vraiment revenir à la croix jour après jour, déposer nos péchés et reconnaître que tu es le seul qui peut nous purifier. Merci parce que tu as envoyé ton Fils qui est mort et ressuscité sur cette croix. Merci parce que grâce à ce sacrifice parfait, nous avons de nouveau un accès auprès du Père. Que cela puisse vraiment être une réalité dans notre vie jour après jour, que notre espérance puisse être dans les choses célestes, dans les choses à venir, et que qu'on puisse vraiment investir sur cette terre pour l'éternité. Demander de nous garder durant le reste de cette journée, que tu puisses garder aussi tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous. Et poser ta main sur eux, poser ta main aussi sur les personnes de cette église qui traversent des difficultés, des moments pas évidents dans leur vie. Veuille vraiment leur faire du bien, te révéler à eux. Et merci parce que tu es ce Dieu fidèle qui nous tient la main jour après jour, Seigneur. Amen.